Notre température a été testée à l'entrée. Tout le monde est masqué. Il y a des visiteurs en jean, d'autres en costume. La plupart ont une valise ou un sac. Le lieu est assez impersonnel, hein, et on commence à avoir fréquenté pas mal d'endroits de ce genre aux États-Unis. C'est dans la cafétéria d'un hôtel que nous enregistrons ce 23e épisode de Washington DC. Avant tout pour des raisons pratiques, hein. Nous n'avons pas beaucoup de temps, on a tous un avion à prendre ou un reportage à aller tourner.
Voilà, donc on est au milieu des valises, vous les avez prises avec vous?
Ouais, ma valise voilà. Est juste là.
Moi, j'ai les chaussettes de Raphaël Bouvier-Auclair juste derrière moi.
Ma valise, moi, est dans voiture, prête à partir.
Franchement, j'ai connu des hôtels pires que celui-là. Hein.
Cet hôtel se trouve à Cleveland, dans l'Ohio, car c'est dans cette ville que se tenait, ce mardi soir, le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden.
Je suis
la modératrice de ce podcast, donc vous allez me laisser finir l'introduction.
Okay,
le débat présidentiel est toujours un moment clé de la campagne, mais après ces 90 minutes d'affrontement entre Joe Biden et Donald Trump, on est tous ressortis groggy,
assommé,
fatigué,
comme après un vrai match de boxe. Alors sur le ring, au lendemain de ce combat épique, il y a
Raphaël Grand, de la Radio-Télévision Suisse.
Raphaël Bouvier-Auclair, de Radio-Canada.
Grégory Philips, de France Info.
Et Anne Corpet, de RFI. Sonia Dridi, de la RTBF, est restée à Washington. On l'aura en ligne avec nous dans un instant. Trump, Biden, débat ou pugilat? C'est le 23e épisode de Washington DC, le balado des radios publiques francophones. Bienvenue.
Washington, D.C.
This is not an ordinary election.
Voilà, ça vous donne un peu idée de ce à quoi nous avons assisté ce mardi soir.
Je sais pas pour vous, mais quand on fait un reportage, essayer de couper un extrait,
c'était hallucinant. Je savais pas quoi sortir de ce débat.
Si, moi j'ai sorti les 3 secondes où Biden demande à Trump de la fermer, qui est peut-être la phrase du jour.
Ouais, il y avait une phrase à la fin aussi qui tenait à peu près. En tout cas, nous, on était très impatients d'entendre les candidats argumenter. On avait préparé nos fiches. 6 thèmes avaient été choisis pour ce premier débat. Alors, on ne va pas tous les passer en revue, surtout que donc on a eu un peu de mal à suivre entre les invectives et les interruptions constantes. Et avant de parler de cette manière bien peu présidentielle de s'adresser au peuple américain, je vous propose de nous attarder posément et calmement sur le fond, et d'abord sur la question du coronavirus.
Oui, parce que c'est évidemment un sujet central. Vous savez, on est à 206 000 morts aux États-Unis selon un dernier décompte, et évidemment, ça a été un des sujets évoqués dans ce débat. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Trump a voulu défendre son bilan en disant qu'il avait fait ce qu'il devait pour lutter contre le virus.
Many of you Democrat governors said President Trump did a phenomenal job. The governor said I did a phenomenal job. Most of them said that. In fact, people that
En résumé, on a fait un boulot phénoménal. Derrière, vous entendez peut-être Joe Biden qui rigole un peu. On a procuré des masques, on a fabriqué des respirateurs artificiels. Vous n'auriez jamais fait ça. Et maintenant, on va bientôt avoir un vaccin. C'est le bilan qui est présenté par Donald Trump à propos de cette épidémie.
Et évidemment, Joe Biden l'a attaqué. Il a tenté le plus souvent possible de parler de cette pandémie. C'est au cœur du message démocrate. Et voici la réplique qu'il avait lancée à Donald Trump.
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious.
Donc selon lui, le président n'avait pas de plan, n'a toujours pas de plan, même s'il savait depuis février que ce virus, il était grave et pouvait faire des morts.
1000 people today are dying. When he was presented with that number, he said it is what it is.
Alors sur le sujet de la pandémie, est-ce qu'un débat peut changer l'opinion qu'ont les Américains des candidats? Pas sûr, surtout quand on voit comment ça s'est déroulé hier. Toi Raphaël, t'as rencontré ici à Cleveland une républicaine très remontée contre le président à cause du coronavirus.
Oui, tout à fait. Elle s'appelle Linda. C'est une républicaine qui va donc voter démocrate et elle se met à sangloter quand elle m'explique ça.
It makes me very uneasy because I've always voted Republican and I can't do that anymore. It just seems weird.
Linda, elle a été malade du Covid-19. Elle s'en est sortie, mais elle n'a pas pardonné en fait à Trump sa gestion de la pandémie et ses mensonges, et elle a donc changé de camp en quelque sorte.
It's not the party I grew up with. I am getting emotional. I'm a COVID survivor.
Mais beaucoup d'électeurs du président ont complètement intégré le discours qu'il tenait notamment au début de la pandémie. Ils continuent de minimiser les faits. Moi, j'étais à un meeting de Donald Trump en Pennsylvanie samedi dernier. Et écoutez ce que m'a dit Jen, une femme au foyer de cet état-clé.
They've skewed the numbers. They're lying about those because in any hospital, especially we're from New York State, if you die from a motor vehicle accident, oh, it was COVID. They bump up the numbers because
elle dit qu'ils trichent, qu'ils mentent sur les chiffres. Elle assure que dans les hôpitaux, si on meurt d'un accident de voiture, eh bien le personnel attribue le décès au COVID pour obtenir des aides fédérales. Elle dit aussi que le coronavirus est une forme de grippe. Bref, elle est dans le déni total.
COVID is a form of flu. It's a form of flu.
Et vous savez, pendant le débat, Donald Trump s'est moqué de Joe Biden, disant qu'il portait toujours un masque.
Et de la taille de son masque.
Et de la taille de son masque aussi. Et il faut comprendre que pour les démocrates, c'est une stratégie de se montrer sérieux face à cette pandémie. C'est le cas, évidemment, pour la campagne nationale, celle de Joe Biden, mais c'est le cas aussi sur le terrain. Je suis allé rencontrer des démocrates dans l'état-clé du Michigan. Eh bien, là-bas, on ne fait pas de porte-à-porte, contrairement aux républicains. On dépose des dépliants à la poignée, sans cogner, sans entrer en contact avec les électeurs. C'est ce que nous explique une dirigeante locale du Parti démocrate, Sonia Patel.
We're not going to sacrifice safety at any cost, right? So we believe the virus is real. We're not going to take any chances with it. I'm not going to put anyone's life at risk.
Elle dit qu'on ne prendra pas de risque, on ne mettra personne en danger. C'est au cœur de cette stratégie parce que les démocrates disent que la COVID-19, c'est une priorité pour de nombreux électeurs américains.
Et d'ailleurs, sur scène, à la fin du débat, quand les épouses des candidats sont montées sur scène, eh ben Jill Biden portait un masque, mais pas Melania. Alors, il y a un autre sujet qui était attendu, c'est évidemment l'économie. C'est un point fort de Donald Trump. Une majorité d'Américains continue de lui faire confiance sur sa capacité à redresser l'économie américaine.
Oui, tu as raison. C'est d'ailleurs le sujet sur lequel Donald Trump enregistre le taux d'approbation le plus élevé parmi la population américaine. On est à peu près à 50% d'approbation dans les derniers sondages sur l'économie. Et donc, évidemment, dans un débat comme celui-là, dans ce premier débat, le président américain a défendu son bilan.
We built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. When the plague came in, we closed it down, which was very hard.
Et il dit, on a construit la plus belle économie de l'histoire. On a dû la fermer à cause de la peste chinoise. Mais maintenant, on rouvre, on bat des records. On a remis plus de 10 millions de personnes au travail en moins de 4 mois. On n'avait jamais vu ça avant. Mais lui, Biden, il veut refermer l'économie, il veut détruire ce pays.
We don't need somebody to come in and say let's shut it down.
Oui, alors Joe Biden a immédiatement répliqué. Il a pointé en retour l'enrichissement des milliardaires pendant la crise.
Des milliardaires et des millionnaires aussi. Petit clin d'œil à Donald Trump.
Et à sa feuille d'impôt.
Millionaires and billionaires like him, in the middle of the COVID crisis, have done very well. Billionaires have made another $300 billion.
Et Joe Biden explique que les milliardaires, les millionnaires ont prospéré au milieu de la crise du Covid grâce notamment à la réforme fiscale du président. Mais il prend à témoin aussi les Américains. Il explique qu'il demande aux gens de Scranton,
qui est la ville où il est né, petite ville ouvrière en Pennsylvanie.
Exactement. Est-ce que ces gens-là s'en sortent avec leur fiscalité? Et Biden explique aussi que Trump sera sans doute le premier président qui va quitter la Maison Blanche avec moins d'emplois sur le marché que quand il est entré. Historique.
To leave office, having fewer jobs in his administration than when he became president. Fewer jobs.
Et malgré tout, malgré ce bilan en termes d'emploi, il y a toujours des gens pour défendre Donald Trump sur l'enjeu de l'économie. Je vous parlais de mon petit voyage dans le Michigan, qui est tout juste à côté d'ici. J'ai rencontré évidemment des travailleurs de l'auto. C'est un secteur névralgique. En fait, il y avait moins d'emplois dans le secteur de l'auto au Michigan en février, donc avant même la pandémie, que quand Donald Trump est entré en fonction. Et malgré tout, j'ai rencontré Brian Penbaker, qui a fondé le groupe Auto Worker for Trump, travailleur de l'auto pour Trump, et qui nous explique ceci.
You can't just snap your fingers and have auto plants that were closed down 10, 20 years ago reappear back where they were. So
on ne peut pas claquer des doigts, dit-il, et espérer que les usines qui ont fermé il y a 10 ou 20 ans reviennent immédiatement. Mais selon lui, il y a un processus qui a été enclenché par le président Trump, notamment par sa renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain. Et lui est confiant qu'à long terme, la stratégie de Trump paiera pour les ouvriers du Michigan, mais c'est assez mitigé. Et les travailleurs de l'auto que j'ai rencontrés étaient divisés sur cette question-là.
À propos d'économie, hein, il y a aussi évidemment cette question de la feuille d'impôt de Donald Trump qui est sortie. Alors, selon un article du New York Times paru quelques jours avant le débat, le président n'a payé que $750 de taxes fédérales l'année de son accession à la Maison-Blanche.
C'est pas beaucoup.
Oui, on paye tous plus que ça. Et il n'a pas payé d'impôt du tout pendant 10 ans. Alors, il a qualifié l'enquête de fake news, mais il n'a toujours pas rendu publique sa déclaration fiscale. Joe Biden, lui, l'a fait. Hein.
Et donc, c'était une question qu'on attendait dans le débat. Chris Wallace la pose, cette question. Il la pose vraiment de façon très précise. Combien avez-vous payé de taxes fédérales sur votre revenu en 2016 et 2017?
I've paid millions of dollars in taxes, millions of dollars of income tax.
Alors, Trump, comme durant tout le débat, il esquive. J'ai payé des millions en taxes. Chris Wallace revient. Combien en taxes fédérales sur votre revenu? Trump revient.
Millions of dollars.
You paid millions of dollars.
Millions of dollars.
So not 750.
Millions of dollars. And you'll get to see it. And you'll get to see it.
Des millions, vous verrez. Mais Trump ne s'est pas engagé en fait à divulguer hein, ses impôts comme le veut la tradition américaine.
Et Joe Biden dit quand, Inch'Allah.
Moi, j'ai voulu savoir quelles conséquences politiques ça pourrait avoir, cette histoire de fiscalité et de feuille d'impôt de Trump. J'ai rencontré un démocrate qui s'appelle Brad. Il était devant la salle du débat avec un t-shirt Joe Biden. Et voilà ce qu'il me dit.
Doesn't surprise me.
Et Brad me dit, je ne suis pas surpris de ces révélations, même s'il s'étonne un peu du moment choisi pour que ça sorte dans le New York Times, évidemment. Mais bon, pour quelqu'un qui prétend être un super homme d'affaires, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, et ça, les Américains sont en train de le comprendre.
Bon, ben ça, c'est côté démocrate, évidemment, mais pour les autres électeurs.
L'impression que ces révélations, ça ne va pas non plus bouleverser l'élection du 3 novembre. Écoutez, Steve.
For me, it won't play much of a role because, you know, I know that's how the system is designed, you know. It's a corrupt system, you know.
Il dit, ça ne va pas changer grand-chose, le système est comme ça, il est corrompu. On le sait que les gens très riches peuvent contourner le fisc, embaucher des avocats pour ne pas payer d'impôts. Je ne vais quand même pas reprocher à Trump d'utiliser le système.
I don't blame Trump for using the system, you know.
Et moi, j'ai même entendu des républicains qui saluaient le fait que Trump soit capable de payer si peu d'impôts. C'était quelque chose de positif pour eux.
Bon, pour en finir avec le fond, hein, au menu du débat, il y avait aussi cette question du vote par correspondance. Depuis des semaines, Donald Trump met en cause la fiabilité des élections à venir du fait du recours à ce procédé.
Pendant le débat, Donald Trump a refusé de s'engager à attendre le résultat définitif des élections pour proclamer sa victoire. On lui a demandé s'il allait exiger que ses partisans demeurent calmes pendant le processus. Il a dit « Je vais demander à mes partisans d'aller superviser les élections ». Joe Biden, lui, avait un message complètement différent.
« Show up and vote. You will determine the outcome of this election. Vote. » Vote, vote, because you will. He cannot stop you from being able to determine the outcome of this election.
L'ancien vice-président a appelé les Américains à aller voter. Il a dit qu'on allait compter tous les bulletins de vote, que ça allait déterminer si lui allait gagner, ce qu'il allait reconnaître, si lui allait perdre, ce qu'il allait reconnaître aussi, mais en tout cas, que c'est le vote qui allait déterminer du sort de cette élection présidentielle.
You have it in your control to determine what this country is going to look like the next four years.
Nous sommes toujours dans cette cafétéria d'un hôtel de Cleveland, hein, au lendemain du premier combat débat entre les deux candidats à la présidence.
Anne, t'as vu que Raphaël Bouvier-Auclair est parti, désolé. Il a un direct pour Radio-Canada, il va revenir dans un instant.
Il est assis sur la table d'à côté, là. Il vient d'enlever son masque, il est en direct, je crois, là.
Bon, alors du coup, on va parler un peu moins fort. Alors, ce débat, c'était évidemment l'occasion de jauger les candidats, et notamment Joe Biden, hein, que Donald Trump a longtemps qualifié de sénile, d'inapte à l'exercice de la fonction, avant de se rendre compte qu'avec cette stratégie, en fait, il s'était tendu un piège.
Et justement, avant le débat, Trump a dû commencer à changer de discours, parce que si Joe Biden n'apparaissait pas sénile lors du débat, en fait, toute sa stratégie, tout son argumentaire tombait à l'eau, et il a commencé à évoquer le fait que Joe Biden se drogue pour être plus réveillé. En fait, voilà, il a été pris vraiment à son propre piège, Donald Trump.
Oui, il a même demandé un contrôle antidopage avant le débat. En fait, on s'est demandé s'ils n'avaient pas tous les deux pris quelque chose hier.
Et la campagne Joe Biden a répondu, nous, on débat avec des mots, pas avec de la prise d'urine.
Et vous avez suivi, évidemment, l'oreillette gate.
Évidemment.
Avec, à quelques heures du débat, l'équipe de campagne de Trump accusant Joe Biden d'avoir une oreillette pour qu'on lui souffle les réponses. Évidemment, c'était une fake news, quoi.
Ça donne un peu idée de l'ambiance surchauffée avant l'entrée sur le ring.
Et le camp démocrate a dû démentir en disant non, évidemment, notre candidat ne se fait pas souffler les réponses. Mais le camp conservateur, sur les réseaux sociaux et même à la télévision, a continué à utiliser cet argument. Biden est incapable de répondre tout seul à Donald Trump.
Et hier soir, on a vu passer sur les réseaux sociaux des zooms de l'oreille de Joe Biden pour attester qu'il n'y avait effectivement pas d'oreillette cachée au fin fond de son tympan.
Ouais, enfin bon, même si ça avait été vrai, avec la cacophonie ambiante, Joe Biden n'aurait rien pu entendre dans son oreillette. Je ne suis même pas sûr que Chris Wallace a pu se servir de la sienne.
Encore un mot sur la santé de Joe Biden. Hier, j'ai rencontré des médecins qui manifestaient en fait devant l'hôtel où Donald Trump était en train de se préparer. C'est à quelques blocs de où on se trouve.
Ouais, il est un peu plus cher.
Voilà, un hôtel un petit peu plus joli, un petit peu plus grand, un petit peu plus impressionnant. Et j'ai rencontré Michael avec sa blouse blanche, un médecin de 78 ans.
78 ans, Raphaël.
Merci, Grégory.
In fact, it bothers me because I'm also 78 years old as he is and I'm still working.
Il m'explique qu'il faut arrêter d'attaquer Biden sur son âge et sa santé mentale. Michael, ce médecin, il a lui aussi 78 ans.
On dit 78 ans en Suisse. Hein.
Merci Anne. Et donc Michael qui dit que s'il a des inquiétudes pour la santé mentale d'un candidat, c'est bien pour celle de Donald Trump, qu'il qualifie de narcissique et de sociopathe. Et là, il précise bien que c'est le médecin qui parle.
Okay, he's a narcissist, he's a sociopathic liar.
Bah, Raphaël, te voilà de retour avec nous.
Le public canadien est bien informé de ce débat.
Et les Américains, qu'est-ce qu'ils ont pensé de la performance de leur candidat? Est-ce qu'ils ont tenu le choc de ce combat Biden-Trump?
Alors, il y a eu des sondages qui ont été menés pendant le débat hier. Les chiffres sont assez intéressants. CBS a donc demandé aux gens qui avaient gagné, selon eux, 48% en faveur de Joe Biden, 41% en faveur de Donald Trump. Il y a CNN qui a fait un exercice semblable. Évidemment, CNN a un public qui n'est pas nécessairement favorable au président, on s'entend. 60% pour Biden, 28% pour Donald Trump. Ce qu'on n'a pas, pour l'instant, au moment où on enregistre cet épisode, c'est le nombre d'Américains qui ont regardé. C'était un nombre très important lors du premier débat en 2016. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura des gens qui voudront se prêter à l'exercice pour les deux prochains débats compte tenu de ce à quoi on a eu droit hier soir?
Oui, et combien ont lâché en cours de route?
Ça, ce serait intéressant de savoir.
Alors, on va appeler Sonia Dridi à Washington. C'est notre spécialiste de Joe Biden.
Allô?
Salut, Sonia.
Salut Anne, ça
Hello,
va?
Hello Sonia.
Salut.
Alors comment t'as trouvé Joe Biden combatif face aux assauts du président?
Oui, finalement on a vu un Joe Biden combatif, loin d'être intimidé par le président. On sait qu'il a aussi un passé de bec, donc on pouvait craindre qu'il bafouille, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait non plus trop de digressions. Et puis on sait, hein, il est souvent présenté comme un candidat mou et ennuyeux. On parle moins de son Irish temper, son tempérament irlandais. Il a un caractère bien trempé et il a finalement quand même réussi à garder son calme face à Donald Trump. Alors parfois on sentait qu'il était à deux doigts de perdre son sang-froid, hein, et à un moment il a dit à Donald Trump, tu peux pas te la fermer.
Will you shut up, man?
Et il a notamment traité le président de clown.
Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me. This,
hey,
this
let me
person.
Just say it.
No. I'm Mr. President. I'm Mr. President.
Et pourtant, on sentait, Sonia, que Donald Trump vraiment essayait piqué au vif Biden, notamment en amenant constamment ou assez fréquemment le sujet de son fils Hunter.
Oui, en fait, Donald Trump, comme beaucoup, sait que Joe Biden est très sensible quand on l'attaque sur ses histoires de famille, notamment sur ses fils. Et à un moment, Biden a évoqué Beau, son fils qui est décédé d'un cancer en 2015. Il parlait de lui parce que c'était un soldat en Irak. Et Trump l'a interrompu en disant, en fait, tu parles de quel fils? Celui qui prend de la drogue. Donc vraiment, on sentait qu'il cherchait. Et là, il y avait un risque que Biden s'énerve, mais en fait, il est resté posé. Il a dit, oui, mon fils a eu un problème de drogue, mais il s'est soigné, il s'en est sorti. Et il a dit qui était très fier de Hunter.
Oui, d'ailleurs, ce petit moment est plutôt un point hein, pour Biden, vu le nombre d'Américains qui sont concernés par cette question de la drogue.
Oui, complètement. Déjà, les Américains sont en général assez touchés par l'histoire personnelle de Biden, avec des tragédies, notamment familiales, qui ont côtoyé ses succès. Et puis, en effet, vu le problème avec la drogue dans ce pays, eh bien, évidemment, je pense que c'était un point pour Biden.
Et tu as pu contacter des électeurs démocrates. Ils sont contents de la prestation de leur candidat ?
Oui, alors j'ai notamment parlé à Pete Clerkins, qui lui était un ancien directeur de campagne de Bernie Sanders en Virginie, et désormais il soutient Joe Biden, mais pas avec un enthousiasme débordant. Comme beaucoup de démocrates, il a été déçu du spectacle auquel il a assisté, mais il est quand même content que Biden ne se soit pas laissé faire.
It was just such a disgrace to watch. That's really, you know, all I can.
Oui, alors il a dit, c'était une telle honte à regarder, c'est la meilleure façon que je peux décrire cela. Il n'y avait aucune volonté, semble-t-il, de la part des candidats de faire avancer le pays qui traverse de nombreuses crises. Je ne pense pas que ce soit une bonne réflexion de ce qu'est notre pays, mais je crois que la phrase à retenir de la soirée, c'est quand Biden a lancé « tu peux pas te la fermer à Trump » et il a finalement essayé de contre-attaquer face à Trump.
Bon, alors en réalité, la pression était surtout sur Donald Trump. Hein. En fait, le président est en retard dans les sondages et devait profiter de ce débat pour remonter la pente. C'est d'ailleurs peut-être ce qui explique hein, son agressivité. Toi, Grégory, tu as passé la soirée avec les Républicains. Ils ont apprécié le combat de leur chef ?
Ah oui, clairement, j'étais dans une watch party. Comment traduire ça en bon français ?
Soirée de visionnement.
Oui, voilà, sur écran.
Visionnage.
Qui était organisé dans la banlieue nord de Cleveland, dans une brasserie. Il y avait pas mal de monde, je sais pas, 300, 400 personnes. Beaucoup de casquettes rouges, Make America Great Again sur la tête, évidemment. Beaucoup de drapeaux Trump 2020. Pas de masque. Personne n'avait de masque. J'en avais mis deux par sécurité.
Dans ton merveilleux masque Washington DC.
Exactement. Et évidemment, applaudissements à chaque fois que Trump attaquait Biden, et à la fin des supporters républicains très heureux de la prestation de leur champion. Et Walter me dit, on s'attendait à ça. Trump, c'est vrai, a beaucoup interrompu Biden, mais moi j'aurais fait pareil pour défendre mon bilan. Peut-être que certains trouvent ça un peu agressif, mais Trump a gagné grâce à son style, son énergie et sa passion pour notre pays.
Un mot sur la prestation de notre confrère, Chris Wallace. C'est un journaliste de Fox News, hein, mais un excellent intervieweur. Il avait promis d'intervenir le moins possible.
Oui, il a tendance à dire qu'un bon intervieweur, un bon animateur de débat, c'est quelqu'un qu'on n'entend pas. Je ne sais pas l'impression que vous avez fait hier soir, mais il a totalement disparu dans le débat, effectivement. Mais c'était peut-être pas volontaire pour le coup. C'était tellement chaotique qu'il n'a pas réussi, j'ai l'impression, à insuffler son style, à insuffler ses questions. Trump a totalement retourné la table.
Ouais, c'est peut-être parce que la formule de débat politique traditionnelle s'applique moins avec un candidat, justement, comme Donald Trump, qui ne respecte pas les règles.
Oui, on a senti vraiment qu'il était dépassé. C'était un peu indépendant de sa volonté. D'habitude, il est quand même assez bon. Mais là, il y a un moment que j'ai trouvé assez marquant, c'est quand il a dit aux deux candidats, mais moi aussi, je peux hausser le ton. Et il s'est mis à hausser le ton. Et c'est vrai que c'était assez inhabituel de le voir comme ça.
And I would like you to let me ask my question, and then you can answer. Go ahead. Franchement, moi, il y a eu des moments où j'ai eu mal pour Chris Wallace, quoi, quand il essayait de dire aux deux candidats, et en particulier à Trump, vous devez respecter les règles, à savoir laisser l'autre parler pendant deux minutes sans l'interrompre. Et franchement, c'était sans résultat. Voilà, c'était totalement perdu face, notamment à l'agressivité de Donald Trump et aux invectives échangées entre les deux candidats.
Ouais, ça faisait vraiment surveillant dans une cour de récréation
ouais,
en ébullition,
ouais.
Quoi. Bon, alors dans une Amérique où la fracture entre partisans et opposants du président est énorme. On peut s'interroger sur l'influence qu'un débat peut avoir sur le vote des Américains, surtout un débat comme celui-là. Pour en avoir le cœur net avec Raphaël, on a obtenu une sorte de scoop hier. Ah bon, c'était avant le débat. On a pu s'entretenir avec le coprésident de la commission des débats présidentiels.
Ouais, ce sont de longs mois d'enquête, de coups de téléphone, comme ça arrive très souvent. Hein. Non, en
tu
fait,
parles.
on marchait dans la rue et on voit quelqu'un avec une veste sur laquelle c'est écrit Commission on Presidential Debate, en fait, la commission qui est en charge d'organiser les débats. Et puis on l'accoste et on lui a tendu le micro. Et on a justement, avec Anne, on lui a posé la question, est-ce que ces débats ont encore un impact sur l'opinion américaine?
We have done exit polls for the past 25 years. And 70 to 75% of the American people say that the debates are an important factor in determining who they're going to vote for. It's not the
Frank Fahrenkopf qui dit que selon les sondages, 70 à 75%, 75% des Américains disent que les débats sont un facteur important dans le choix du candidat et qu'il y a effectivement des moments lors de ces débats présidentiels qui peuvent vraiment influencer une campagne.
Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a eu un moment dans ce débat qui a pu faire la différence, Sonia?
Oui, alors je pense qu'il y a eu un moment quand même assez troublant, hein, et que ce soit pour les démocrates, voire aussi pour les républicains. C'est lorsque le modérateur a demandé à Donald Trump s'il condamnait les nationalistes blancs, les suprémacistes blancs. Et là, Trump a complètement esquivé la question en disant que le problème venait de la gauche. Il a notamment condamné les antifas. Et il faut rappeler que le refus de Donald Trump de condamner les suprémacistes blancs a notamment poussé Joe Biden à se présenter à l'élection présidentielle.
Ça, c'était après les événements de Charlottesville. Hein.
Oui, tout à fait. Il a rappelé pendant le débat, et puis un de ses proches conseillers me l'avait confié, que Joe Biden hésitait quand même à se présenter lorsque, après les violences à Charlottesville et notamment le décès d'une manifestante antiraciste, Trump a refusé de condamner clairement les nationalistes blancs. Eh bien, vraiment, ça l'a poussé à se présenter.
Et il y a un groupe suprémaciste qui a été nommé pendant le débat, ce sont les Proud Boys. Tu les avais rencontrés, Grégory, en Oregon, hein,
c'est oui, ça? À Portland, pendant une manifestation. Les Proud Boys, qu'est-ce que c'est? C'est un groupuscule nationaliste qui est présent un peu partout aux États-Unis. Ils sont évidemment pro-armes, pro-Trump. White suprémaciste, ils s'en défendent, mais quand on les croise, et moi j'avais pu filmer cette scène avec mon téléphone portable, ils te font avec leurs doigts le signe White Power, donc ça,
pouvoir blanc.
Il y a quand même pas beaucoup de doutes là-dedans, et donc pendant ce débat, ils ont reçu la reconnaissance, on va dire, du président des États-Unis.
Et d'ailleurs, ils s'en félicitent hein, ce matin sur les réseaux sociaux de cette exposition nationale. Alors pour finir, je voulais quand même vous faire écouter l'espoir rare de cette franco-américaine que j'ai rencontrée hier juste avant le débat. Elle s'appelle Karine Caputo, elle vit dans la banlieue de Cleveland et ça paraît un peu décalé ce matin.
Il n'y a pas un bon climat, il y a un climat toxique aux États-Unis entre les républicains et les démocrates. Et donc j'espère que ce débat va refléter une attitude un peu plus respectueuse des deux côtés. Quoi.
Ça c'était bien avant le débat, on est d'accord.
J'aimerais bien voir qu'il y ait plus de collaboration et de coopération, moins de polarisation, parce qu'il y a beaucoup de choses, des valeurs du côté républicain et démocrate où on peut s'accorder. J'espère que le débat de ce soir va refléter un petit peu comment on peut travailler ensemble.
Bon bah c'est raté.
Ouais, totalement.
On peut pas dire que son vœu a été exaucé, mais d'autres débats doivent avoir lieu. Et on peut toujours espérer. Alors, celui des candidats à la vice-présidence, Mike Pence, Kamala Harris, ce sera dans une semaine à Salt Lake City, dans l'Utah. Et deux autres face-à-face entre Donald Trump et Joe Biden sont prévus. Mais alors, beaucoup s'interrogent hein, sur la pertinence de recommencer cet exercice. Ils sont annoncés à Miami, en Floride, le 15 octobre, à Nashville, dans le Tennessee, le 22. En attendant, restez fidèles à Washington DC. Écrivez-nous sur notre fil Twitter. On vous retrouve dès la semaine prochaine parce que oui, maintenant, notre podcast, notre balado, il est hebdomadaire.
Et oui, le rythme s'accélère.
Et en plus, on se dispute pas, hein, on s'insulte pas.
En tout cas pas au micro. Hein.
Allez, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Washington DC avec
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Sonia Dridi, RTBF.
Grégory Phillips, France Info.
Anne Corpet, RFI.
Réalisé par
Daniel Martineau.